Oxnet, un puissant ver informatique qui a détruit l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz, en Iran. En 2010, les centrifugeuses iraniennes ont cessé de fonctionner. C'était la première fois dans l'histoire du cyber que la cybertechnologie, en l'occurrence Stuxnet, endommageait physiquement une installation. La cyberguerre d'État nécessite une infrastructure importante afin de pouvoir attaquer, mais aussi de se protéger. Benjamin Netanyahu m'a appelé. Il m'a dit « Faites quelque chose. Soumettez-nous un plan sur 5 ans. Dites-nous comment modifier l'ensemble de notre système afin de préparer Israël aux défis de demain et faire de notre pays un chef de file en matière de cybertechnologie.
We are in a highly evolving world right now. I think all of us in this room understand the importance of cyber.
C'est un jeu d'interdépendance. Je dois m'associer à d'autres et je comprends que ça me rend dépendant des autres. Mais si je suis intelligent, je vais développer un système d'armes cybernétiques dont les autres auront besoin. Donc, je crée cette interdépendance. Ça va changer le classement des puissances mondiales. On voit maintenant de petits États, je pense bien sûr à Israël, mais aussi à d'autres nations dans le monde, qui sortent leur épingle du jeu grâce au partenariat qu'ils ont créé avec les acteurs du cyber. Ces États sont en train de gagner en puissance. De ce point de vue, ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle est tout à fait frappant. À l'époque, la France était l'un des plus grands pays d'Europe. Elle comptait 28 millions d'habitants. L'Angleterre, elle, était une petite île avec seulement 7 millions d'habitants. Mais la révolution industrielle a démarré en Angleterre et les Anglais ont rapidement compris qu'il fallait prendre le train en marche s'ils voulaient développer leur propre flotte et s'équiper de navires militaires capables de la protéger. Et un siècle plus tard, en 1850, qui a pris la tête de l'Empire? Ce ne sont pas les Français, ce sont les Anglais. Il y a donc un précédent, et je ne serais pas surpris que le classement des puissances mondiales change de façon radicale. Le cyber et le monde numérique disposent de nouvelles règles. Certains pays l'ont compris très rapidement, et d'autres pas.
Les États bénéficiant d'une avance technologique développent souvent des formes alternatives d'hostilité, ce qui peut les pousser à ignorer des solutions de nature politique. Dans ce cas, ils mènent des luttes plus quotidiennes, des campagnes numériques et d'autres types de campagnes. L'exemple d'Israël est extrêmement parlant, parce que le pays mène une guerre antiterroriste depuis un certain temps. Et de nombreuses voix s'élèvent. D'importantes voix juridiques ont exigé que le droit international humanitaire, qui interdit la torture et limite le nombre de victimes civiles, soit mis en œuvre. Ça a certes permis à Israël de dire que son gouvernement menait cette guerre de façon plus humaine, alors que tout reste encore très violent. Mais ça l'a effectivement poussé à mener cette guerre de façon plus humaine, en utilisant notamment le roof knocking, c'est-à-dire en alertant la population avant un bombardement. L'effet collatéral, c'est que d'une certaine façon, cette guerre antiterroriste a été banalisée. L'occupation des territoires, dont Israël est à l'origine depuis 1967, est maintenant plus difficile à contester. Il est donc devenu plus facile pour les politiciens de maintenir un conflit armé sur le terrain et plus difficile pour les organisations civiles d'y mettre fin.
Le deuxième niveau de la cyberguerre repose sur les hackers, donc sur des individus. Il est alimenté par un étrange mélange d'idéologie, de cupidité et une certaine forme de témérité.
I can shut down your power grids. I can paralyze your infrastructure. I can access the personal data of everyone in America. I am the enemy with no face. And I can't be stopped.
For every would-be cyber cyber attack. There's a team of US Army cyber warriors who will not be defeated.
En 2016, pour la première fois de l'histoire, les États-Unis ont invité de gentils hackers à collaborer avec le pays. Entre le lancement de l'invitation et la réception du premier rapport valide de vulnérabilité, il ne s'est écoulé que 13 minutes. Le métier de hacker n'est pas prêt de disparaître.
Pour comprendre ce qu'est la cyberguerre, il faut déjà comprendre ce qu'est le cyberespace. D'ailleurs, ce terme n'a pas été inventé par des généraux ou des scientifiques, mais par un romancier, William Gibson, dans Neuromancier.
Cyberspace, a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators.
This is the future.
Le futur est déjà là, même si ces manifestations ne sont pas encore les mêmes partout. C'est ça, le concept du cyberpunk.
I'm Karen El-Azari, chercheuse en cybersécurité, autrice et gentille hackeuse.
L'une des raisons qui m'a fait aimer les livres cyberpunk, comme neuromancien, c'est que les héros sont des hackers qui se battent contre des machines. Il y a un personnage de hackeuse qui a changé ma vie. En 1995, j'ai vu un film hollywoodien intitulé Hacker. Pour la première fois, je voyais des hackers, des lycéens comme moi, qui vivaient en dehors de la société traditionnelle. L'une des héroïnes de ce groupe était jouée par Angelina Jolie. Cette hackeuse jeune et féroce m'a vraiment beaucoup plu. Et en grandissant, j'ai eu très envie de lui ressembler. Les médias distinguent parfois deux types de hackers. Les white hats, c'est-à-dire les hackers bien intentionnés, et les black hats, qui agissent de façon illégale ou malveillante.
Le cyber, c'est le lien entre les gens et les machines. Le cyberespace est un endroit où dialoguent des gens et des machines. Je porte un chapeau noir, mais je suis un chevalier blanc du hacking. Mon objectif est d'apporter au monde plus de sécurité. Quand j'avais 13 ans, mon père m'a donné un livre sur la programmation. Comme tout enfant ultra-orthodoxe, je n'avais pas accès à Internet. Je ne trouvais des informations que dans les livres. Je voulais créer mon entreprise. Je me suis marié à 19 ans et je ne pouvais pas quitter mon emploi pour réaliser mon rêve parce que j'avais une famille. Et ma famille aussi avait un rêve. Alors j'ai cherché les failles de sécurité qui pouvaient exister sur de gros sites Internet. Parce qu'en faisant ça, je savais qu'on allait me rémunérer. Grâce à cet argent, j'ai pu créer mon entreprise. On plaisante souvent sur le fait que nos premiers investisseurs sont des entreprises comme Google, Microsoft ou Facebook. Vous devez avoir conscience qu'aujourd'hui, la plupart des gens et la plupart des sites peuvent être victimes de ce type de piratage. Alors voilà mon conseil. Aujourd'hui, je travaille pour Microsoft, Facebook et Google. Je ne suis peut-être pas le meilleur hacker au monde, mais je sais que j'ai réussi à construire quelque chose. J'ai eu un impact à l'échelle de l'univers.
Il est temps de mettre en place un système immunitaire numérique pour cette nouvelle ère. Des centaines d'entreprises travaillent maintenant avec des hackers et disposent toutes de ce qu'on appelle un programme de prime aux bugs. Il serait naïf d'attendre des gouvernements, des entreprises de cybersécurité qu'ils identifient les failles. Les hackers ont obligé la technologie à évoluer et à s'améliorer.
Good morning. Happy Cyber Monday.
On pense toujours que les guerres ont un début et une fin. Mais ces nouvelles façons d'opérer semblent redéfinir les choses. Il n'y a plus de différence entre la guerre et la paix. Il n'y a que des hostilités sans fin.
Dans 10 ou 20 ans, il y aura beaucoup plus de systèmes autonomes. Et chaque système autonome civil pourra devenir une arme. C'est comme une maison hantée. Imaginez une maison hantée dans un film d'horreur où tout à coup les poupées ont le pouvoir de vous tuer. Demain, il y aura des immeubles hantés, il y aura des villes hantées. Et à ce moment-là, on sera à un niveau très proche de celui de l'état de guerre.
Comme dans toute guerre, la situation peut vous échapper et s'aggraver très rapidement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos ancêtres estimaient qu'une agression était une sorte de porte d'entrée. Et que si vous autorisiez les hostilités, tout pouvait arriver. Il est donc important d'interdire la possibilité d'une guerre dès le départ.
Le fait que les guerres adoptent des formes de moins en moins visibles augmente le risque de perte de contrôle, qui est de toute façon inévitable en cas de guerre. D'un certain point de vue, nous sommes déjà dans une guerre mondiale. Nous n'attendons pas l'explosion de ce conflit, mais son escalade.
Les armes autonomes constituent le troisième niveau de la cyberguerre. Elles reposent sur l'intelligence artificielle, les avancées technologiques et le puissant complexe militaro-industriel.
Imaginez une Kalachnikov. Je peux créer énormément de dégâts avec 1 million de Kalachnikov, mais seulement si j'ai 1 million de soldats pour les porter. Il faut vivre dans un état-nation pour pouvoir créer une émulation suffisante et disposer d'autant d'effectifs. Les armes autonomes, elles, n'ont pas besoin d'humains pour les porter. C'est donc comme si 1 million de Kalachnikov se mettait subitement à tirer sur les gens.
They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high.
En 2017, on a réalisé Slaughterbots, un court-métrage qui montre ce qui pourrait se passer si les armes autonomes étaient largement accessibles et les immenses problèmes de sécurité que ça pourrait engendrer.
Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works.
Selon l'ONU, on peut définir une arme autonome comme une arme capable de localiser, de sélectionner et d'engager des cibles humaines sans supervision humaine. Ici, engager veut dire tuer. Donc, localiser, sélectionner et tuer des êtres humains.
A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy.
On a beaucoup de mal à juguler l'utilisation des armes nucléaires depuis 1945. Elles font déjà assez de mal comme ça. On ne veut pas quelque chose de pire.
Vous vous souvenez de Richard Gatling ? Qui inventa une mitrailleuse rotative dans l'espoir de sauver des vies, Dmitri Litovkin, un représentant commercial de l'entreprise d'armement Ural Vagonzavod, soutient une idée similaire à celle de Gatling. Selon lui, les armes autonomes sauvent des vies.
Это модуль, в котором уже нету экипажа. Это полностью роботизированная система, которая работает в автоматическом режиме. Она одна решает задачи, которые бы решали 30 человек.
En réalité, ce que permettent les drones de combat et les armes autonomes, c'est de tuer plus facilement sans s'exposer à un risque quelconque.
Such weapons that remove a human being from actual military action make it easier for a country to go to war. We do not need weapon systems that make it easier for one country to kill people in another without having to suffer the consequences of their military actions.
Il est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité que nous refusions un certain type d'armement, même si celui-ci pouvait nous donner l'avantage d'un point de vue militaire. Mais nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que nous ne souhaitions pas ça pour l'espèce humaine. Pour de nombreux acteurs de l'intelligence artificielle, l'introduction d'armes autonomes dans notre monde serait dommageable à tous.
En plein air cybernétique, le concept de guerre se rayonne d'une aura nouvelle. La cyberguerre donne aux attaquants l'illusion de pouvoir conserver leur anonymat. Elle se présente comme une guerre modérée, qui ne cause que des dommages limités et contrôlés, et qui ne ressemble pas aux guerres violentes et cruelles ayant jalonné l'histoire de l'humanité. Rien à voir avec ce que nous décrivent les scènes du film « Guerre et paix ». La cyberguerre serait donc une guerre plus humaine.
Le roman de Léon Tolstoï, « Guerre et paix », questionne l'éthique et la justice des guerres. Tolstoï soutient l'idée que si nous laissons les guerres se dérouler de façon violente, nous nous en porterons mieux. Évidemment, ce genre de postulat fait presque office d'affront à l'ère des drones de combat et des armes autonomes, parce que nous avons adopté le point de vue contraire. Nous pensons qu'utiliser la technologie pour réduire la souffrance est le meilleur choix qui s'offre à nous. Tolstoï promeut la violence de la guerre parce qu'elle est humaine, parce qu'elle est faite de prisonniers qu'on capture et de blessés que l'on soigne. Elle constitue une erreur éthique. Si on continuait à mener des guerres violentes, on serait confronté à la réalité et on en ferait moins souvent. Il y a aussi, dans le roman de Léon Tolstoï, une idée qu'il a développée dans la dernière partie de sa vie et qui consiste à dire que même si les guerres humaines sont de bonnes choses, elles induisent un certain nombre de risques, notamment celui de faire durer une guerre au-delà du nécessaire.
C'est un endroit métaphysique où on peut retrouver les membres de sa communauté en un instant et se connecter à eux. C'est un endroit où l'on peut changer des tas de choses de façon immédiate, des milliards de fois à la seconde. Il y a 12 ans, j'ai vu une jeune femme chanter la ligne soprano d'une pièce musicale que j'avais écrite et qui s'appelle Sleep. Elle avait mis la vidéo sur YouTube. Elle ne me connaissait pas. C'était comme si elle avait envoyé un message dans une bouteille qui était venue jusqu'à moi. Et je me suis dit que si je trouvais 25 personnes qui, comme elle, chantaient leur propre ligne en respectant la clé et le tempo de la pièce, le lieu où ces personnes se trouvent ou le lieu où elles auraient enregistré leur partie n'aurait aucune importance. Une chorale virtuelle pourrait naître.
C'est vrai qu'Internet a certainement accéléré le rythme de nos vies quotidiennes. Le fait d'évoluer dans un monde basé sur des interactions rapides a permis à beaucoup de gens d'élargir leurs compétences. Et maintenant, l'être humain commence même à devenir une sorte de machine sociale au sein d'Internet.
Notre esprit envisage Internet comme une réalité objective. Platon pensait que la véritable réalité n'était pas la réalité matérielle, mais la réalité spirituelle. L'idée de Platon était de lier ces deux dimensions avec la notion qu'il appelait lui-même Internet. D'après Platon, ce qu'on fait quand on pense, et donc quand on invente une technologie, c'est qu'on copie les ombres de ces réalités absolues. Pour lui, l'esprit divin, c'est la connexion de toutes ces idées. Et c'est ça qui permet à la réalité d'exister. Alors, si je suis platonicien, je peux dire que je contribue à la vie d'un esprit divin.
The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Said, let there be light, and there was light. And God said, let us make man in our image, after our likeness.
Dans l'histoire de la création, le Dieu omnipotent créa le monde en lui ordonnant d'exister. Que la lumière soit, et la lumière fut. Mais quand deux humains, en l'occurrence Adam et Ève, croquèrent dans la pomme de l'arbre de la connaissance et bousculèrent le cours des choses, ils furent expulsés du jardin d'Éden. La conséquence imprévue de ce péché originel, commis il y a 70 000 ans, est ce que les scientifiques appellent aujourd'hui la révolution cognitive, l'émergence des langages et de la civilisation, donc le début de notre histoire. La religion, la culture et la science se complètent, se contredisent et rejaillissent les unes sur les autres. Elles essayent toutes de comprendre, d'expliquer et de donner du sens à l'existence humaine.
Grâce à Ève, notre liberté est devenue réalité. Si on en croit la Genèse, Dieu a créé la possibilité d'agir de bonne ou de mauvaise façon. Mais Dieu n'est pas responsable de nos actions. Il nous a simplement donné cette capacité à faire le bien et le mal. En croquant la pomme, Ève nous a offert une explication. Elle nous a révélé le sens du mot « décision ». C'est donc grâce à elle que nous sommes libres. Elle nous a libérés d'une certaine forme d'aveuglement et de stupidité. C'est bien pour ça que cet arbre s'appelle l'arbre de la connaissance.
J'aime l'histoire d'Adam et Ève telle qu'elle a été exposée par le philosophe allemand Immanuel Kant. Kant écarte la thèse du péché originel.